88.3.
Maman, allume la radio.
Tous les mardis, 18h-20h, découverte musicale sur Sequoia FM avec DJ Baba.
Vous êtes sur Soleil d'Afrique.
Le vol AB745 est annulé.
Évitez tout voyage en raison des manifestations.
À la suite du passage de l'ouragan, les hôtels sont fermés.
Vous prévoyez un voyage? Personne n'est à l'abri des imprévus. Protégez votre argent. Achetez votre voyage d'une agence qui a un permis du Québec. Vous profiterez gratuitement des avantages du fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Informez-vous au québec.ca/agence-voyage-protection. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du lundi 16 mars 2026. Le Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches, CSN, appuie l'idée d'une loi Gabironneau. Il a fait cette annonce vendredi dernier lors d'un point de presse sur la lutte à mener contre les violences faites aux femmes en marge de sa journée thématique en conditions féminines qui réunit plusieurs dizaines de délégués syndicales provenant de tous les horizons. Une loi Gabironneau, du nom de celle qui fut victime l'an passé d'un féminicide en pleine campagne nationale contre les violences faites aux femmes, permettrait aux femmes d'avoir accès aux antécédents judiciaires des hommes violents. Le Conseil central demande par ailleurs d'accélérer la livraison de maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. À l'occasion du dépôt du budget par le ministre des Finances du Québec, une manifestation organisée par le collectif de lutte et d'action contre la pauvreté, la région de Québec, aura lieu mercredi à compter de 16 heures. La manifestation se tiendra à la promenade des Jardins, située entre le Centre des congrès et l'Hôtel Hilton Québec. Les représentants, représentantes et analystes du CLAP ayant participé au huis clos du budget seront présents pour exposer brièvement leur analyse et leur réaction à chaud. Le collectif de lutte et d'action contre la pauvreté de la région de Québec rassemble des groupes communautaires de la région qui agissent sur l'enjeu de la pauvreté. Plusieurs activités sont prévues dans la région de Québec à compter de demain jusqu'au 28 mars dans le cadre des festivités de la Sainte-Patrick à Québec. Le tout débutera avec la cérémonie de levée du drapeau de l'Irlande à l'Hôtel de Ville à 9 h pour célébrer la culture irlandaise et honorer la précieuse histoire qui lie la ville de Québec à la communauté irlandaise. Des représentants de la communauté irlandaise de Québec seront présents pour marquer ce moment symbolique et lancer les festivités dans une ambiance chaleureuse et solennelle. On peut consulter la programmation au gcpatrick.com. Le comité d'exposition des étudiants et étudiantes en histoire de l'art de l'Université Laval vous invite à son exposition « Front d'essence, médiation autour du temps et de l'espace de la nature », présentée du 16 mars au 17 avril à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins. La thématique s'inspire d'expressions de la culture japonaise telles que Shirin-yoku et Nagori. L'exposition « Activité satellite de Manif d'art 12, la Biennale de Québec », l'exposition réunit les œuvres de 12 artistes. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de Sequoia 88.3 FM et sequoiafm.org.
Même chose, pluie de diamants sur nos corps.
Bonjour, au micro Robert Rousse en compagnie de Daniel Lambert. De Québec sur les ondes de CKIA 88.3. Nous sommes le 16 mars, nous sommes réunis parce que il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui à l'émission, on n'est pas à la chronique, on n'est pas tout seul, nous recevons le groupe Vivre Grand. Nous aurons notre chronique de politique municipale. la chronique C'est le fun parce que c'est gratis et les éphémérides. Alors, bonjour à vous, Philippe. Bonjour, Daniel. Bonjour, nos invités, Stéphanie et Nicolas. Bonjour. Bonjour. Avec nous, pour avec qui on va discuter un peu plus tard à l'émission. Mais débutons avec notre collègue et grande voyageuse, Daniel Lambert, qui nous livre son billet d'introduction depuis la ville de Mendoza, en Argentine. Bonjour, Daniel. À vous la parole.
Bonjour. Merci. Bonjour Robert. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du transport urbain en Argentine et d'une particularité de ce transport qui est la carte Subé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Subé? Eh bien, c'est pour Sistema Unico de Boleto Electronico, qui veut dire système unique de billets électroniques. Mais il faut savoir que Subé, ça veut aussi dire en espagnol « monte ». Alors, les gens montent dans l'autobus.
Ouais.
C'est ça. Alors, la carte électronique, ben, ça permet de payer presque tous les transports, l'autobus, le métro et même certains trains. Et ben, en plus de pouvoir l'utiliser à Buenos Aires, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle peut être utilisée dans une soixantaine de villes en Argentine. Donc, cette même carte-là, si on a mis de l'argent dessus, ben, on peut l'utiliser dans plusieurs villes, comme ici à Mendoza ou à Bariloche, où j'étais la semaine dernière à Patagonie. Et cette carte-là, ben, elle a été introduite en 2010 pour simplifier le système de paiement. Il faut dire qu'il n'y avait pas d'abonnement de transport ni de billets individuels, donc les gens payaient avec de la monnaie et c'était devenu assez compliqué là, parce que ça prenait beaucoup, beaucoup de monnaie et puis c'était laborieux là, pour les utilisateurs. Et ben, le fonctionnement est simple, c'est une carte qu'on va tout simplement aller là, soit dans des kiosques ou il y a des bornes dans le métro pour pouvoir mettre de l'argent dessus. Et ce qui est intéressant, ben, c'est qu'il y a possibilité là, d'offrir des tarifs réduits à certaines personnes, ce qu'on appelle la tarifa sociale. Et ça permet aussi de collecter beaucoup de données sur les déplacements urbains, parce que chaque fois qu'on entre dans l'autobus, on met notre carte et donc ça, on sait là, exactement la ligne qu'on a prise, à quelle heure, l'endroit assez précis là, où est-ce qu'on est entré dans l'autobus. Et on dit que ça permet aux urbanistes à ce moment-là de mieux comprendre le flux des déplacements dans les différentes villes d'Argentine. Et la carte, ça aide aussi là, à planifier là, indirectement toute l'organisation là, au niveau des déplacements. Et il y a une petite pratique aussi qui s'est développée, semble-t-il, dès qu'est arrivée l'entrée en vigueur de la carte, c'est que des fois, ça arrivait que des gens entraient dans l'autobus, ils avaient oublié leur carte Subé ou qu'ils n'avaient pas mis suffisamment d'argent. Et là, ben, il y a des petits gestes de solidarité qui se sont développés. Il y a des gens dans l'autobus qui se levaient et qui allaient passer leur carte Subé sur le terminal et la personne là, payait en argent là, tout simplement là, la personne qui l'a aidé. Et je l'ai vu, ce geste-là, quand j'étais à Bariloche. Il y a des touristes qui sont entrés et qui ont voulu payer. Et ça ne fonctionnait pas. Bref, ils n'arrivaient pas là, à payer leur entrée. Ils voulaient payer en argent, mais c'est impossible. C'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui s'est levé spontanément dans l'autobus et qui est allé utiliser sa carte Subé. Et ils lui ont donné un montant là, correspondant à leur billet. Alors, semble-t-il que ça, c'est assez fréquent là, que ça se passe comme ça. Et il y a, en plus de la carte Subé, dans certaines villes, comme à Bariloche, on peut également payer directement dans l'autobus avec sa carte de crédit. Et ce n'est pas des autobus récents, hein, c'est des très, très, très vieux autobus, mais ils ont installé dans les autobus des machines plus récentes. Alors, je me dis, si on est capable de faire ça à Bariloche, en Patagonie, avec des vieux autobus, je me demande là, à quand le paiement électronique chez nous.
On n'est pas tout seul.
Alors, vous le savez, nous recevons chaque mois un organisme communautaire. Alors, on a longtemps, l'organisme que nous recevons cette semaine, on l'a longtemps connu, cet organisme, sous le nom de le AISQ. Mais aujourd'hui, ils portent un nom qui en dit beaucoup plus long sur leurs ambitions. Ça s'appelle Vivre Grand. Alors, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Beauchemin, accompagnée de Nicolas Giroux, pour nous parler de cet organisme essentiel dans notre région. Et Nicolas nous parlera, vers la fin de la chronique, plus précisément, de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Alors, bonjour à vous deux.
Bonjour. Merci de nous recevoir.
Ah, ça nous fait plaisir. Écoutez, pourquoi le changement de nom vers Vivre Grand? Est-ce que ça traduit l'évolution de la mission pour les personnes vivant avec des difficultés intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme?
Bien, absolument. En fait, en janvier 2025, on a adopté le nouveau nom. Là, on est passé de AISQ, vous l'avez dit tout à l'heure, donc l'Association pour l'intégration sociale de Québec. On a adopté le nom Vivre Grand parce que, bon, premièrement, les gens ne savaient pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, les lettres, en fait, ou bien mélanger le nom ou quoi que ce soit. Puis ça voulait... Tu sais, ça amenait pas
c'était
vraiment...
C'était plus mêlant.
C'est ça, ça amenait pas une image concrète non plus. Fait qu'avec le nom Vivre Grand, bien, c'est ça, on voulait refléter notre vision, notre mission, puis on a même un petit slogan là, qui accompagne ça. On dit souvent... voir grand, oser grand, vivre grand, j'ajouterais même rêver grand, en fait. Puis c'est ça, c'est l'idée de grandeur qu'on veut apporter quand on nomme notre nom, en fait, d'avoir des idées de grandeur, oui, mais qui sont possibles aussi, puis de rendre ça possible
réaliste,
pour les personnes
avec qui
et pour qui on travaille.
Alors, on parle d'inclusion sociale, mais concrètement, dans le quotidien d'une personne autiste ou ayant des difficultés intellectuelles à Québec, ça signifie quoi, vivre grand? Comme pour toi, Nicolas, comment Vivre Grand a influencé ta démarche puis ta vie?
Moi, qu'est-ce qui m'a influencé, c'est qui m'a changé ma vie, c'est ça?
Oui.
Ce que ça m'a changé ma vie, c'est que quand je suis arrivé à Québec, la période d'adaptation était très difficile.
OK.
Par rapport avec Vivre Grand, j'ai eu mon frère qui m'a tellement aidé. Mon frère, il me dit « Hey, il y a peut-être un organisme qui s'appelle AISQ. » Et maintenant, c'était Vivre Grand. Puis grâce à mon frère Olivier, que je le surnomme, grâce à lui, ben j'ai sorti de ma zone de confort pour être mieux dans l'organisme de Vivre Grand parce que je me suis dit « Hey, faut qu'on vive grand, là, à un moment donné.
Faut que je sorte de ma coquille, puis faut que j'avance. » Fait que, là, par l'aide de ton frère, t'as été mis en contact avec Vivre Grand, puis là, ça t'a permis de vivre des choses.
Oui, exactement.
Toi, t'as évolué beaucoup, là, depuis que t'es là.
J'avais beaucoup de difficultés avec l'adaptation. Je cherchais quelqu'un à qui me confier. J'avais besoin de soutien. Cet accompagnement m'a vraiment aidé à avancer grand et me sentir mieux.
À t'accepter.
Exactement.
À t'accepter. Ben, c'est excellent.
Ma famille, Vivre Grand, et ma blonde aussi, je la surnomme Roxane.
OK. Bon, ben on va parler peut-être de Roxane un peu plus tard. Je reviens à Stéphanie. Vous offrez du répit à domicile sur tout le territoire de la Capitale-Nationale jusqu'à l'île d'Orléans. Pourquoi est-ce si crucial pour les familles de pouvoir compter sur quelques heures de liberté le soir ou la fin de semaine?
Bien, premièrement, je pense que c'est important pour les familles. C'est difficile, là, mais d'accepter que c'est pas une défaite de demander un service de répit, que ce soit le nôtre ou peu importe où. Là, c'est normal, en fait, d'avoir peur puis de pas avoir confiance à laisser son enfant à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais pour vrai, ça permet sincèrement de mieux aider son enfant par la suite aussi, parce qu'on est plus disponible pour l'enfant après avoir bénéficié d'une petite période de repos, de souffler un peu. Et aussi, ça permet la participation sociale des familles puis un équilibre familial durable aussi, parce que on offre du répit à domicile, mais s'il y a de la fratrie, donc des frères et sœurs qui sont présents sur place, on les accompagne nous aussi. Fait que les parents peuvent vraiment aller se
reposer. Tout le monde est là, vous allez prendre toute la fraperie, puis les parents peuvent aller prendre un peu d'air à l'extérieur, puis tout ça.
On a plus de 50 familles desservies là, dans le territoire, là, puis ce qui sort surtout des familles, ce qui en tire de cette expérience-là, c'est vraiment la reconnaissance, je pense, puis de faire confiance.
Dans la documentation que j'ai lue, j'ai vu qu'un des grands piliers de Vivre Grand, c'est l'habitation. Vous parlez de soutien gradué, de préparation à l'autonomie résidentielle. C'est probablement le plus grand défi, ça, d'un parent, de savoir que son enfant va avoir un milieu stable et adapté une fois adulte.
Oui, je suis pas parent moi-même, là, mais tu sais, j'ai des commentaires pratiquement de manière hebdomadaire de parents, des témoignages super touchants. Là. On est rendu à environ 178 locataires. Exactement, en fait. 178 locataires. On a 5 habitations en mixité sociale, fait que 178 locataires, imaginez le nombre de parents et de proches aidants derrière ça aussi. Puis je pense que c'est très important de les accompagner aussi. Parce que oui, c'est une préparation pour la personne qui va aller vivre seule en appartement, de manière autonome. Mais pour les parents aussi, encore une fois, de faire confiance puis un peu de laisser aller. Puis, tu sais, une des questions qui revient plus souvent dans la tête des parents, j'ai l'impression, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là?
Quand je suis pas
quand
là,
quand je serai décédée, ben, juste que quand je vais me faire placer, tu sais, qu'est-ce qui va devenir de mon enfant? Fait que d'avoir cette confiance-là, que la personne est autonome, qu'elle a de l'autodétermination dans son logement aussi, je pense que c'est, encore une fois, une manière de soulager les parents puis les proches.
Tu pars plus tranquille un peu.
Exactement.
Mais vous avez parlé d'habitation, 178 habitations, tout ça. Mm-hmm. Alors, si je comprends bien, c'est un espèce de grand complexe dans lequel... c'est du logement social qu'il y a là.
Ouais. C'est de la mixité sociale.
Mixité sociale.
Oui, on a 5 projets d'habitation partout dans la région. Puis, dans ces habitations-là, ça dépend en fait de chaque habitation, là, mais on a environ le tiers des locataires qu'on appelle des locataires vivre grand. On a du soutien clinique aussi avec le CIUS sur place. On a des intervenants qui sont sur place. Donc, les personnes sont vraiment autonomes dans leur logement, mais s'ils ont besoin d'un accompagnement, on a des personnes qui sont là. On a des salles communautaires, on a des salles à manger aussi. Donc, il y a des formations, toutes sortes d'activités sur place là, qui permettent une meilleure
Ou un résident veut recevoir des amis ou de la famille, il y a des places qu'il peut le faire.
Exactement.
Parce que des fois, la famille, c'est plus qu'un petit appartement. Philippe, vous avez une question?
Oui, et ce genre d'habitation, est-ce que ça s'adresse à tout le monde du spectre de l'autisme ou seulement ceux qui sont que c'est plus difficile?
C'est une bonne question. En fait, nous, c'est ça, en collaboration avec le CIUS de la Capitale-Nationale, on fait des évaluations cliniques pour voir s'il y a un potentiel pour les personnes d'être autonomes dans leurs habitations. Fait que c'est pas... Pour l'instant, là, c'est un projet à plus long terme, mais pour l'instant, c'est des personnes qui ont des moins gros besoins nécessairement. Donc, okay.
Mais s'ils ont un trop grand potentiel, ils pourront pas y accéder?
Pour l'instant, non. C'est dans nos projets pour l'instant, mais vu que, en fait, c'est depuis 2020... qu'on a des habitations. Donc, c'est un projet qui est quand même assez récent, là, fait qu'on est encore un peu en phase de consolidation, mais c'est un de nos objectifs de développer non seulement d'autres habitations, mais pour d'autres types de besoins aussi dans la région, puis dans d'autres quartiers aussi.
OK. Donc, si t'es dans le spectre de l'autisme, mais que t'es trop fonctionnel, mais que t'as peut-être un peu de besoin, ça s'adresse
à ces personnes-là. Oui, en fait, je pensais que votre question allait plus dans l'autre sens. On veut développer pour plus de besoins plus tard, mais tu sais, si la personne a un potentiel d'être autonome, puis...
Oui, ben en gros, c'est je vous pose la question pour mon fils, qui est présentement à l'écoute, là, justement. Puis que
on
te salue, Soleil. Mon expérience fait que trouver des services qui sont adaptés à ses besoins, je trouve ça un peu difficile, mais en même temps, c'est comme... Il est quand même assez... autonome, tu sais, au point de vue scolaire, là, il a bien réussi puis tout ça, mais il a plus de difficultés au point de vue social, mais en même temps on a l'impression qu'il n'y a pas de service. Fait que c'est ça ma question était de savoir genre est-ce que ce genre de service là, ça serait disponible aux gens de son profil, t'sais? Ou ce serait il faudrait plus qu'aller du côté de plus c'est que plus régulier, du côté plus régulier là, de services.
Bien, ça dépend vraiment. En fait, on a toutes sortes de profils là, dans nos habitations, mais nous, on n'a pas de service 24 heures pour dans nos habitations. Là. Fait que ça prend des personnes qui sont quand même relativement autonomes.
Oui.
C'est sûr, mais s'il n'y a pas besoin nécessairement d'aller voir les intervenants ou quoi que ce soit, il n'est pas obligé, d'avoir du service dans l'habitation, évidemment. Là, ça dépend de chaque personne.
OK.
Carrément.
D'accord. Ouais. On va revenir vers Nicolas, qui est, parce qu'on l'a dit au début d'entrevue, que Nicolas, c'est le porte-parole de la semaine de la déficience intellectuelle ici à Québec. Alors, c'est quoi les principaux événements ou les activités qu'on va avoir cette semaine, Nicolas?
Ben, de mon côté, j'aimerais inviter les gens à découvrir les activités. On a plein de genres d'activités. On a le soccer, on a plein d'activités, le hockey, le bowling, on a plein de genres d'activités. Là. Je ne sais pas tout exactement, mais j'invite les personnes à
suivre la programmation.
À suivre la programmation sur le sqd.com.
Bon, parce que, puis quand tu dis soccer, tout ça, c'est que ça donne une occasion aussi aux gens de jouer avec des gars comme toi qui.
Pour inclure le monde.
Qui inclure tout le monde.
Pour inclure le monde, pour inclure l'inclusion.
Bon, ben moi, je pense que ce serait une belle activité pour les parents. Des fois, on a nos enfants, puis on essaye de leur parler d'ouverture, puis tout ça, mais ils n'ont jamais eu nécessairement l'occasion de rencontrer ou de côtoyer une personne avec ces difficultés-là. Alors, ça peut être une belle occasion de démystifier. Alors, on espère pouvoir te revoir sur un terrain de soccer, mon cher. Tu me parlais aussi, avant l'entrevue, que... tu tiens pas les... Tu passes pas tes journées à te tourner les pouces, toi. T'as progressé beaucoup, hein?
Non, vraiment pas.
Comment donc, de ça, de ta journée, là, qu'est-ce que tu fais de bon?
En général, moi, je suis à l'école au centre Louis-Joliette.
OK.
Je suis un étudiant là. Ou sinon, j'ai travaillé dans ma vie, sauf que j'ai lâché mon travail pour aller à mes études et aussi pour faire de la photographe.
Ah, t'es photographe, toi?
Ouais, depuis 17 ans, je fais de la photo. Mon père Jean-Pierre, que je le salue, mon père, il m'a aidé vraiment beaucoup là-dedans. Okay. Il m'a poussé, puis là, je suis devenu photo l'œil différent sur Facebook et Instagram. Je vous invite tout le monde à regarder ces profils-là.
Donc, on peut aller voir ton profil, voir tes photos, voir ton travail sur le site qui s'appelle... L'œil différent.
Oui, puis j'ai beaucoup de contrats avec Vive Grand aussi.
OK, fait que tu fais des contrats avec tes organismes.
Oui, avec plein d'organismes. Les organismes, quand ils parlent de photographe et de Nicolas, ben ils savent qui je suis.
Puis là, ils appellent Nicolas, puis ça aide.
Et voilà.
Oui, ben c'est bon. Alors, écoutez, on remercie beaucoup Stéphanie Beauchemin puis Nicolas Giroux d'avoir partagé la vision d'une société beaucoup plus inclusive et bienveillante. Puis on rappelle que vous pouvez prendre des informations sur le site web www.vivregrand.org et toute l'importance pour vous de vivre sur les réseaux sociaux fait qu'on peut avoir toutes les données là. Merci.
Merci beaucoup.
Donc, en lien avec notre entrevue, nous vous proposons une chanson produite par l'influenceur Instagram Le Monde de Benjamin. Centrée sur Benjamin Graton, autiste et fils de l'humoriste Mathieu Graton et Patricia Paquin, ils produisent chaque année une chanson pour le mois de l'autisme en collaboration avec des artistes québécois. Nous vous présentons cette semaine la chanson de 2021 par l'artiste Deux Frères avec « Tout le temps ».
Voir mon appartement, ma vue sur les étoiles, regarder en avant. Mais on sait bien que ça se fera pas sans pli ni tourment. Mais au moins moi, je regarderai mon cœur d'enfant tout le temps. Rêver tout seul dans mon espace, les choses se passent, les murs se tassent. Et si tu le fais pour moi, à ma place, sur tes pas, les miens s'effacent. Mais laisse-moi donc compter sur moi. Comme tout le monde, je veux l'avoir mon appartement. Ma vue sur les étoiles, regarder en avant. Et on sait bien que ça se fera pas sans pli ni tourment. Mais au moins moi, je regarderai mon cœur d'enfant. Plus que différent, tu m'approches pas souvent, c'est pas évident. Au milieu des gens, me vois-tu assez grand? Laisse-toi donc compter sur moi. Comme tout le monde, je veux l'avoir mon appartement. Ma vue sur les étoiles, regarder à pas sans pli ni tourment. Mais au moins moi, je te garderai mon cœur d'enfant tout le temps. Tout le temps. Comme tout le monde, je veux l'avoir mon appartement. Ma vue sur les étoiles, regarder en avant. Mais on sait bien que ça se fera pas sans pli ni tourment. Mais au moins moi, je garderai mon cœur d'enfant tout le temps.
Vous écoutez Il est jamais trop tard sur les ondes de CKIR, Radio Urbaine 88.3 FM, au Carré-Lépine à Québec, avec vos animateurs Daniel Lambert et Robert Rousse.
Politique municipale.
Alors, on débute notre tour d'horizon de l'actualité municipale et je vous le dis d'entrée de jeu, si vous avez envie de faire entendre votre voix, c'est le moment de le faire. Tous les conseils de quartier tiennent une rassemblée mensuelle selon un horaire différent chaque soir. Alors, c'est un rendez-vous qui est important car, au-delà des dossiers courants, on prépare les élections pour le mois d'avril dans les différents conseils. Alors, c'est le moment de poser vos candidatures si vous voulez agir concrètement dans votre communauté. Attention, il y a une procédure à suivre. Il faut notamment 10 signatures d'appui et tous les détails et les formulaires vont être accessibles via notre site, notre page Facebook de Il est jamais trop tard. Alors, pour l'agenda de cette semaine, lundi le 16 mars, ce sera les quartiers Cap-Rouge, Jésuite, les Maiserais, Sainte-Thérèse-de-Lisieux et Vanier. Le 17 mars, ce sera Duberger-les-Saules, Lac-Saint-Charles, Loretteville et Sidrie. Mercredi, ce sera les quartiers de Chute-Montmorency, Neuchâtel-S et les Le Bourgneuf, Saint-Sauveur et Val-Bélair et, pour terminer, le Vieux-Limoilou. On parle maintenant de la Basse-Ville. Vous le savez, depuis le début de l'année, je vous parle souvent des efforts de revitalisation dans le quartier Saint-Roch. Eh bien, depuis quelques jours, il y a une magie dans l'air avec un nouveau parcours d'art public intitulé « Les engins à souhait ». C'est une initiative du collectif Ex-Muro, signée par l'artiste Fanny Giguère. Ce sont 5 œuvres lumineuses et interactives qui sont dispersées dans le quartier. Le concept est poétique. Vous appuyez sur un bouton et vous déclenchez un geste symbolique, comme souffler une bougie d'un gâteau d'anniversaire ou effeuiller une marguerite. Mais là où c'est brillant, c'est que vous pouvez laisser votre propre souhait via un code QR. Alors, les vœux sont ensuite illuminés sur la façade de la bibliothèque Gabriel-Leroy. On retrouve les installations dans des lieux stratégiques comme au Café Rencontre, à la brasserie La Corrigane ou encore à la Nef. Alors, toujours dans Saint-Roch, l'Université du Québec voit grand. Alors, il y a un projet massif de 500 millions de dollars qui a été déposé au gouvernement fédéral pour créer 2000 logements étudiants à travers la province, dont 100 unités directement ici dans le quartier Saint-Roch. Actuellement, les résidences comme celle de l'édifice Fleury sont pleines à craquer. Et pour la conseillère Hélène Lepage, l'enjeu est clair. Il faut loger nos étudiants pour maintenir la vitalité du quartier. D'ailleurs, un dossier technique important est revenu en consultation jeudi dernier lors du conseil de quartier de Saint-Roch. Oui, parce que la Ville a utilisé ses nouveaux pouvoirs issus de la loi 31 pour donner un coup de pouce au projet de l'organisme utile. Il s'agit de construire 285 logements sociaux pour étudiants sur la rue de la Pointe aux Lièvres. En prolongeant le délai de mise en chantier, la Ville permet à l'organisme d'attacher son financement. C'est une excellente nouvelle car d'ici 2027, on prévoit 1800 nouvelles unités d'habitation dans ce secteur, dont 30 % seront des logements sociaux. C'est ça, la fameuse mixité sociale qu'on recherche. Enfin, on ne peut pas passer sous silence l'effort de solidarité de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis 2024, c'est plus d'1,5 million de dollars qui ont été injectés dans Saint-Roch. On parle de soutien concret à l'itinérance, notamment en injectant des fonds pour le RIPI Basse-Ville, qui accueille 160 personnes chaque jour et chaque nuit, ou encore pour les services de soins infirmiers d'urgence à l'Aube-Rivière. Desjardins soutient également des activités culturelles comme le spectacle Aura à l'église Saint-Roch ou le théâtre Labordé. Mais également, elle supporte l'économie locale avec Un bel exemple de cette implication, c'est la boutique éphémère Trampoline, qui est située sur la rue Saint-Joseph-S. C'est un incubateur pour les nouveaux entrepreneurs. Elle est installée dans l'ancien local de Chaussures Fillon. Alors ça, c'est un bon endroit pour commencer une entreprise. Si vous avez des projets dynamisés, pour dynamiser votre secteur, ben vous voyez en Haute-Ville, que vous soyez en Haute-Ville ou Basse-Ville, sachez que la Caisse populaire Desjardins de Québec lance son appel à proposition pour 2026-2027. On cherche des idées pour renforcer le sentiment d'appartenance et l'achat local dans les 7 quartiers centraux. Alors, on le voit, Saint-Roch est un véritable laboratoire urbain où l'art, le logement étudiant, la solidarité économique se rencontrent pour redessiner le visage de notre ville. N'oubliez pas, les conseils de quartier vous attendent dès ce soir. C'est le moment de passer de l'écoute à l'action. Et tous les liens pour les mises en candidature et les ordres du jour sont sur notre page Facebook.
Et puis, rapidement, du côté du conseil municipal, qu'est-ce qui se passe?
Ah, ben, un peu? Ben, au dernier conseil, mardi dernier, le maire Bruno Marchand a joué carte sur table en nous disant que 80 % de nos infrastructures, on parle ici tuyaux, bâtiments, véhicules, sont dans un très, très bon état. Par contre, 15 % sont très critiques et nécessitent un rattrapage urgent. Alors, le diagnostic est tombé. Ça fait un manque à gagner de 5,5 milliards de dollars sur 10 ans pour assurer la pérennité de Québec. Alors, sans l'aide des paliers supérieurs, ce plan de rattrapage s'étirerait sur 30 ans. Alors, 3 décennies de dégradation potentielle, le maire refuse d'imposer ça aux citoyens. Alors, pour briser l'impasse, le conseil municipal a adopté une résolution qui est assez rare afin de forcer la main de Québec et d'Ottawa. Le constat de la ville est lucide. Alors, faut arrêter de faire des programmes de subvention actuels qui privilégient trop souvent des nouveaux projets, du tape à l'œil, des nouvelles choses, alors qu'il faudrait peut-être réparer ce qu'on a déjà. Alors, pas besoin de vous dire, Philippe, que l'opposition, Respect citoyen, a sauté sur l'occasion.
Ouais, ouais.
Et Stéphane Lachance, qui ne mange pas ses mots, il voit là pour lui une raison de plus pour abandonner le projet de tramway, en comparant la facture du projet au déficit d'entretien.
Ouais, mais la part de la ville là-dedans n'est pas plafonnée à 750 millions?
Bien, effectivement, c'est ce qu'a répondu M. Marchand en disant que c'est un discours complotiste, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus haut que 750 millions. Ben. À l'inverse, les infrastructures de base, comme l'asphalte, l'égout et les choses, ça incombe directement à la municipalité. Alors, on sait que vous allez pouvoir retrouver aussi toutes les références de ce qu'on vous parle à nos chroniques sur la page Facebook de « Il n'est jamais trop tard ». Et c'était notre chronique municipale et je vous souhaite une excellente semaine dans les quartiers.
Comme nouveauté cette semaine, nous vous présentons une chanson de l'artiste Bonne Nuit Chérie avec Sortie de secours.
Ma tête qui tourne entre tes mains, un signal de début et de fin. Mais pour ce soir, je n'en qui brûle aller-retour. Toujours ça s'arrête, puis ça recommence. Il n'y a rien à dire, rien d'important devant le vide qui attend. We'll be right back.
De CKIA, Radio Urbaine 88.3 FM. Vous écoutez Il est jamais trop tard avec vos animateurs Daniel Lambert et Robert Rousse.
C'est le fun, puis c'est gratis.
Bonjour. Alors, Daniel. Qu'est-ce qu'on a comme activité gratuite cette semaine?
Alors, on va débuter avec une activité qui se tient dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme. Ça aura lieu le 25 mars. J'en parle tout de suite parce que c'est préférable de s'inscrire. C'est à 18h30 au 155 boulevard Charest-Est. C'est une table ronde qui s'intitule « Fascisme, nationalisme identitaire et islamophobie, comprendre la montée de l'intolérance au Québec ». Et la table ronde, il va y avoir Alexandre Dumas, historien, Kaoula Zouglami, professeur à l'Université Laval, et Maxime Fortin, chercheur à l'IRIS. Alors, on recommande là, de s'inscrire pour être certain d'avoir une place. Maintenant, il y a aussi les activités de la Saint-Patrick qui débutent cette semaine, mais il va y en avoir encore beaucoup la semaine prochaine. Même le gros va avoir lieu là, vers la fin du mois de mars. Mais je vous parle là, d'une activité qui se tient du 7 au 28 mars. C'est un rallye pédestre, la magie des farfadets. En fait, c'est une activité qui est autonome et qui permet d'enquêter à travers le Vieux-Québec pour trouver des indices laissés par la communauté irlandaise. Alors, vous pouvez tout simplement, via le site web, aller chercher les informations et vous allez ensuite pouvoir vous promener dans le Vieux-Québec et vous lancer dans cette aventure-là n'importe quand ça va vous convenir. D'autres activités maintenant pour cette semaine. Alors, il y a les 17 et 18 mars, c'est donné deux fois, donc au Musée de la civilisation, une conférence qui s'appelle « Espace portuaire de Québec, porte d'attache ». Alors, on sait que la ville de Québec s'est développée autour de son port. Les marins y trouvaient accueil, divertissement, de l'animation. Les quartiers entiers là, qui se sont organisés autour de l'industrie maritime. Et donc, si vous voulez en savoir davantage, eh bien, l'historien Samuel Venière, expert en histoire militaire canadienne, va vous faire découvrir le rôle du port dans le développement social et commercial de Québec. 17-18 mars, comme je le disais, de midi à 13h. Et vous devez réserver, il y a un repas léger qui va être inclus avec votre réservation.
Excellent.
Une autre activité qui se tient le 17 mars, ça s'appelle « Changer de côté, vous vous êtes trompé ». C'est une expérience participative et ça aura lieu au Centre communautaire Jean-Guy Drolet. Alors, c'est demain. Si vous voulez y aller, il faut demain matin le téléphoner rapidement pour prendre part à ce spectacle traditionnel québécois qui va recouvrir un conte, de la gigue et de la danse traditionnelle calée à travers une histoire. Et c'est présenté par le théâtre de la Bacchès. Le 18 mars, mais oui?
Oui, pour les amoureux d'histoire, qu'est-ce que tu as à nous proposer?
Oui, c'est une causerie avec Marie-Ève Sévigny. Ça s'intitule « Le Vieux-Québec est une histoire d'amour ». Ça a lieu à la Maison de la littérature. C'est Marie-Ève Sévigny qui va s'entretenir avec Françoise Guénette de son nouveau livre. Et ce nouveau livre-là, ben, ça porte sur l'écrivain Jacques Poulain qui... avait différentes promenades là, dans son univers à travers le Vieux-Québec. Et Marie-Ève Sévigny va vous guider dans le quartier qu'a tant aimé cet écrivain-là, Jacques Poulain, à travers ses promenades. Le 19 mars, maintenant, un sujet dont on a déjà parlé, prévenir la fraude. On sait qu'il y a de plus en plus de fraudes et sur Internet ou téléphone, etc. Alors, le 19 mars à 13h30, c'est à la bibliothèque Paul-Aimé Paiement. Vous allez pouvoir apprendre à identifier et éviter les tentatives de fraude financière en assistant à cette conférence. Alors, c'est donné par Michel Gariépy, qui est de la direction de l'éducation financière de l'AMF. Ça va permettre là, d'en savoir un petit peu plus sur comment on peut se faire attraper et surtout comment éviter de se faire attraper dans ces différentes tentatives d'escroquerie. On poursuit avec une autre causerie historique, l'érable. Alors, tout le monde aime l'érable. Là. J'imagine que c'est votre cas, Philippe et Robert. Hein? Oui, c'est très bon. Oui, hein? Tout le monde aime ça. Alors, à leur arrivée en Amérique du Nord au 16e siècle, les colons d'origine française ont découvert une technique pratiquée par plusieurs peuples autochtones, la cueillette de l'eau d'érable. Et ils ont développé rapidement le goût pour le bon sirop d'érable. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, c'est le 19 mars à 19h à la bibliothèque Gabrielle Roy. Et c'est l'historienne Catherine Ferland qui va... faire l'histoire là, des produits de l'érable devenus là, vraiment emblématiques là, du Québec. Le 21 mars, maintenant, il y a une foule d'activités. Ça, c'est samedi prochain. Alors, on commence avec le Centre Monseigneur Marcoux qui offre un cinéma discussion en famille à 9h30 le matin, donc dans la salle communautaire. Et c'est le film Sonic 3 qui sera présenté. C'est pour toute la famille et on dit qu'il y aura des bouchées et des collations incluses. Toujours samedi prochain, dans l'après-midi, de 13h à 15h, c'est Raconte-moi ton pays, Centrafrique. Alors, c'est Charlebourg Interculturel qui vous invite à une nouvelle édition. Et cette fois, ça va mettre à l'honneur la Centrafrique. Alors, au programme, il y aura une présentation culturelle. On va présenter les traditions, l'histoire. Il y aura des témoignages migratoires et dégustation d'une collation typique de la Centrafrique. Alors, c'est au Brio Charlebourg-Nord sur la rue des Roses à Québec. Toujours le 21, samedi, à la Maison de la littérature, eh bien, c'est la nuit de la poésie. Ça revient à chaque année. C'est à compter de 19h30. Et il va y avoir autant là, des gens qui sont établis que de la relève. Et ils vont faire des lectures. Il y aura également de la musique, de l'animation. Donc, c'est toute la soirée à la Maison de la littérature. Si vous voulez en connaître davantage sur les femmes en sciences, eh bien, le 21 mars, de 10h à 15h en continu, il y a un rallye de petits défis sur différentes femmes et on va mettre en valeur leurs travaux. Et ça a lieu à la Maison Léon Provencher. Samedi encore, ça c'est dans le cadre de la Saint-Patrick. Il y a l'îlot des Palais, qui est un site historique et archéologique incontournable à Québec et qui présente des expositions. Présentement, c'est Révélation, ici, on brassait la bière et 100 ans de vie nocturne à Québec. Habituellement, il faut payer pour aller visiter. Ouais. Mais samedi prochain, de 9h30 à midi, on va pouvoir visiter gratuitement les expositions permanentes et temporaires de l'îlot des Palais. Et donc, ça va vous permettre là, d'en connaître davantage sur notamment les Irlandais et la bière irlandaise. Alors, si ça vous intéresse, samedi prochain, de 9h30 à midi. Le 22 mars, maintenant, on revient avec un sujet qui certaine que Philippe...
Des ozobots! Des ozobots!
C'est ça, les ozobots, alors qu'ils sont encore à la Maison de la BD de 13h à 15h. Hey. Et on vous invite donc à sortir d'un parcours enneigé. Vous allez pouvoir guider ces petits robots intelligents et les aider à éviter les obstacles. Et on termine avec une activité... qui est également dans le cadre de la Saint-Patrick. C'est le 22 mars, c'est à 12h30 et à 14h au Musée de la civilisation. C'est la troupe de l'école de danse irlandaise Marie-Claude Rousseau qui vous invite à un spectacle vibrant de danse irlandaise. Alors, ce sera une occasion festive et rassembleuse de découvrir l'énergie, la musicalité et la richesse d'une tradition toujours bien vivante. Alors, toutes les activités, vous allez les avoir sur la page Facebook. Puis la semaine prochaine, on va vous reparler de la Saint-Patrick.
Pour la chanson éphéméride de cette semaine, voici une chanson de 1981 du groupe Abitibi avec Boomtown Café.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au Boomtown Café. On vous souhaite de passer une agréable soirée avec nous, et on vous souhaite surtout du succès dans vos amours jusqu'à la fin de la nuit. Le soleil s'est couché dans toutes les TV d'Amérique. Les chars ne bougent plus, les gens non plus, comme dans un grand rêve électrique. Les délivreurs de bière montent la rue dans le sens contraire. Pousse le matou dehors, c'est à soir que tu sors. Laisse tout cela, viens voir le monde veut te voir. Un peu d'amour, ça te fera pas tort. Laisse une lampe allumée, le voleur pourra s'en farcher. Bienvenue au Boomtown Café, tout le monde est arrivé. Le show peut commencer. Ouvre les yeux, ouvre ton cœur. Y'en a qui disent que le bonheur c'est comme l'avenir, c'est pour plus tard. Ils disent encore parle pas trop fort, certains guitares on pourra penser que t'es pas mort. En attendant face y face on chauffe l'enfer à petite misère. Mais moi je te désire toujours si désirable. On a mis la musique à table, du petit vin fou puis des baisers partout partout. Venir dans la fourrure de cette nuit. Bienvenue au Boomtown Café, tout le monde est arrivé. Le show peut commencer. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, c'est bien mieux de retourner. Allez, je te rends une grosse tempête de
trop tard sur les ondes de CKIA Radio Urbaine 88.3 FM avec vos animateurs Daniel Lambert et Robert Rousse.
Éphéméride.
Donc, pour les éphémérides, Daniel, en 1948.
Oui, c'est la naissance de Richard Desjardins. Qui est né à Rouyn-Noranda. Et Richard Desjardins a pris le piano avant même de commencer l'école. C'est un très bon pianiste, d'ailleurs. Il a fondé le groupe Abitibi avec quatre amis musiciens. Et en 88, il a sorti le disque Les derniers humains, qui comprenait la chanson Le cœur est un oiseau, une ode à la liberté. Ça a été fait avec du socio-financement. En 90, Tu m'aimes-tu, un album dont personne ne voulait au départ et qu'il a autoproduit, et on sait là, ce qui en est devenu. Il a composé là, parmi les plus belles chansons d'amour des Jardins avec Tu m'aimes-tu, Elsie, Jenny. C'est un poète, auteur, compositeur, interprète, mais aussi un cinéaste, un militant environnementaliste qui a participé à plusieurs films, dont L'erreur boréale, Le peuple invisible, True Story, des documentaires Coup de poing. Et prochainement, ben, il va participer au festival Cisco en lumière avec l'Orchestre symphonique en Rouyn-Noranda. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi aller écouter un entretien à la Maison de la littérature. Il est possible de l'écouter si vous allez sur leur site.
Alors, le 16 mars 1955, le joueur de hockey le plus adulé de Montréal, Maurice Richard, le Rocket, est suspendu pour le reste de la saison et la totalité des séries éliminatoires. Cette sanction fait suite à une altercation survenue 3 jours plus tôt à Boston, où le Rocket, blessé à la tête par un coup de bâton, avait répliqué violemment avant de frapper l'arbitre qui le tenait. Alors, en voulant s'y libérer, il a frappé l'arbitre. Alors, le verdict tombe comme un coup près. Richard perd son titre de meilleur compteur, meilleur marqueur, et le Canadien se voit ses chances de remporter la Coupe Stanley s'effriter, car le Canadien, le Rocket, ne participe pas aux séries. Le lendemain, le 17 mars, la tension explose au Forum, alors qu'ils jouent contre Détroit. Une bombe lacrymogène éclate, le match est annulé, l'émeute gagne les rues avoisinantes, causant d'importants dégâts. Pour plusieurs, ce soulèvement populaire marque les balbutiements de la Révolution tranquille, bien que cette interprétation demeure encore débattue.
On poursuit avec Juliette Huot, l'une des pionnières de la radio, théâtre et télévision, qui est décédée le 16 mars 2001 à l'âge de 89 ans. Alors, elle a joué à la radio dans le rôle de Bertine du feuilleton Un homme et son péché. Elle a aussi joué au théâtre, au Monument national, dans la revue Les Fridolinades, puis plus tard d'Anticoque, tous deux écrits par Gracia Gélina, qui lui est décédée un 16 mars, mais 2 ans plus tôt. Elle joue aussi le rôle de Germaine Lauzon dans la pièce Les Belles-Sœurs. On l'a vu aussi à la télévision dans Cré-Basile, Saint-Forien, bon, et plusieurs autres. Mais c'est aussi une très bonne cuisinière qui a animé une émission Les recettes de Juliette à la télévision et qui a publié plusieurs livres de recettes. Elle a aussi été très engagée et elle aurait été la porte-parole des Petits Frères des Pauvres pendant plusieurs années. Il y a d'ailleurs un prix décerné par les Petits Frères des Pauvres qui porte son nom.
Exactement. Alors, le 16 mars 1996, je reviens encore avec le Canadien de Montréal, car il discutait son premier match dans son nouveau domicile, le Centre Molson. C'était une victoire de 4 à 2 sur les Rangers de New York. Alors, le complexe de 230 millions de dollars, entièrement financé par l'équipe sportive, devenait alors la cinquième résidence de la Sainte-Flanelle depuis la fondation en 1909. Succédant à l'Aréna Jubilé, à celui de Westmount, par la suite ce fut à l'Aréna Mont-Royal et au mythique Forum de Montréal. Lors de l'inauguration, c'est le légendaire Maurice Richard qui a reçu la toute première ovation de l'histoire de l'amphithéâtre. Rebaptisé Centre Bell en 2002, l'édifice accueille 21 273 visiteurs. Il est aujourd'hui une plaque tournante mondiale pour le sport et les spectacles de grande envergure. La preuve, Lady Gaga sera de passage à Montréal au Centre Bell en avril prochain. Pour les nostalgiques, sachez que l'intégrale du match historique de 1996 est toujours disponible sur YouTube.
On poursuit avec Sophie Thibault, qui a remporté le prix de la meilleure animatrice de bulletin de nouvelles au Gala Métrostar le 16 mars 2003. C'était la première fois qu'une femme remportait le prix. Il faut savoir qu'en mai 2002, elle est devenue la première femme en Amérique du Nord à occuper le poste de chef d'antenne du plus important bulletin réseau de nouvelles, celui de 22 heures. Alors, elle a quitté TVA là, il n'y a pas très longtemps, en juin 2025, où elle a travaillé pendant 37 ans. Et présentement, ben, ça donne une autre passion, la photo. Et si vous avez la chance, allez les voir. Elle fait vraiment de magnifiques photos. Elle a aussi publié quelques livres, dont « Dans ma nature », qui présente ses photos coup de cœur, et « Telle mère, telle fille », un roman écrit à quatre mains avec sa mère.
Alors, le 16 mars 1926 marque la naissance de Jerry Lewis dans le New Jersey. Jerry Lewis débute sur scène à l'âge de 5 ans. En 1946, il apparaît pour la première fois à l'écran avec Dean Martin. Ils seront ensemble pendant 16 films. Le duo jouera également de la comédie sur scène ainsi qu'à la télévision et à la radio. En plus d'être producteur et metteur en scène, il a joué dans pas moins de 60 films. Quelques films marquants comme Dr. Jerry et Mr. Love en 1963, La valise des pantins de Martin Scorsese en 1982, et où il joue un rôle dramatique, et l'autre film qui est Rêve d'Arizona en 1993. Il a été professeur de cinéma à l'Université de Californie du Sud. Il dira de lui-même, on n'est pas sérieux lorsque perpétuellement, quand on a perpétuellement dans notre tête 9 ans. Jerry Lewis s'est engagé dans la lutte contre la dystrophie musculaire. Il a reçu des nominations au prix Nobel.
Donc, merci Roland. Et ici Philippe Alarousse à la mise en onde. Pour le thème musical, un arrangement de Marc Bélanger de Don't Get Around Much Anymore de Duke Ellington. À la recherche et à l'animation, Robert Rousse et Daniel Lambert. Restez à l'écoute car nos collègues de Dignité Noire suivent. Sur ce, on vous dit, on se revoit la semaine prochaine car
il n'est jamais trop tard.
Yes, I, my reggae family. I'm Man Raskiko pour t'inviter à écouter Dread Al Control Reggae Radio Show chaque mardi soir de 20h à 22h. Rendez-vous avec la vibration positive dans tout le style ska, rock, steady, roots, dub, dancehall, tout ça provenant des quatre coins de la planète reggae. So, reggae music mixé sur CKIA 88.3 FM, ckiafm.org, chaque mardi soir, Roots and Culture.
Au Québec, ce n'est pas avec une publicité qu'on va sauver le français. Non, c'est avec...
C'est avec moi, Léo, de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, et vous, en train d'écouter la radio en français. Continuez comme ça, là. Un message de Léo
et du gouvernement du Québec.
Culture, c'est votre rendez-vous culturel épicurien tous les mercredis à 11h sur les ondes de CKIA FM et CKIAFM.org en compagnie de Julie Réaume. Musique, art de la scène, art visuel, théâtre, bouffe, boisson et plus encore. Soyez des nôtres tous les mercredis à 11h pour l'émission Culture.
Avec la routine du quotidien qui va trop vite, qu'on mélange le boulot, mon rôle de mère, le loisir de tout le monde de courir tout bord, tout côté, d'aller porter pour un la game de hockey, l'autre le cours de danse. Là-dedans, j'ai pas le temps de m'informer. Puis, j'ai trouvé la solution. Pendant que je fais deux lunchs et de prendre mon café, ben, j'écoute Bon Matin l'actu avec Félix Devisme tous les matins du lundi au vendredi de 7h à 7h30. C'est là que je prends le temps de m'informer.
Soleil d'Afrique sur la CKIA FM 88.3.